Bonsoir, ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Pour l'heure, il est pile 19h ici à Paris.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Bienvenue dans la grande session d'information du soir avec des faits, des commentaires, des reportages et des analyses. Dans 10 minutes après le journal, ce sera Action du Monde avec les regards croisés des rédactions en langues étrangères de RFI concernant la guerre commerciale que Donald Trump vient de déclarer au monde entier. Il sera également question du début de l'apaisement au Mozambique, de cet accord qu'exigent les États-Unis concernant les ressources naturelles de l'Ukraine, et puis de la fermeture de Radio Free Asia et de Radio Voice of America menacées, alors qu'elles jouent un rôle important dans la liberté d'expression et d'information au Cambodge, entre autres. Dans une demi-heure, ce sera les dessous de l'Infox, l'Europe face aux manipulations de l'information et les menaces d'interférences étrangères, et puis la cellule info vérif de RFI avec ce qui se passe en RDC, de faux journaux radio attribués à Radio France Internationale qui sèment le trouble. Afrique Soir s'intéressera entre autres à l'insécurité alimentaire dans le centre de l'Afrique qui touche 40% de la population, et puis dans 2 heures, Ici l'Europe sur RFI recevra le Premier ministre croate Andrej Plenković. RFI Soir, 17h en temps universel, tout de suite l'essentiel de l'actualité avec un journal, c'est avec vous Margot Ratezic et les États-Unis qui restent dans l'OTAN.
Le secrétaire général Mark Rutte a tenu à rassurer les pays membres en cette deuxième journée de rencontre entre ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Il a fait savoir que Washington ne comptait pas se désengager du continent européen. Je vous propose d'écouter Mark Rutte.
Le départ des États-Unis de l'OTAN ou de l'Europe n'est pas à l'ordre du jour. Les États-Unis sont là. Ils vont s'orienter davantage vers l'Asie, ce qui pourrait les obliger à rééquilibrer leur action ici et sur d'autres théâtres. Mais il y a aujourd'hui et il y aura toujours en Europe une présence nucléaire et conventionnelle des États-Unis. Le problème est qu'avec cette présence et le sous-investissement du côté européen, dans 3 à 5 ans, nous ne pourrons pas nous défendre contre la Russie. C'est pourquoi nous devons dépenser davantage. Aujourd'hui, 2 choses se déroulent en parallèle. L'argent supplémentaire arrive rapidement, au cours des 2 derniers mois, et nous déciderons sur quoi le dépenser sur la base de ce processus de ciblage.
C'était Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN.
Donald Trump reste ferme et il le clame. Je ne changerai jamais de politique.
Et Donald Trump, déterminé malgré les nombreuses craintes qui entourent les droits de douane américains. De nombreux pays ont déjà adopté des mesures de rétorsion. En Chine, une organisation a attaqué en justice les taxes imposées à Pékin. La Chine imposera d'ailleurs un droit de douane supplémentaire de 34% sur les marchandises importées des États-Unis, mesure qui prendra effet le 10 avril. Et le ministre chinois du commerce y voit un moyen de mieux protéger les intérêts nationaux. À Pékin, la correspondance de Cléa Broderst.
La Chine frappe fort. Des droits de douane de 34% supplémentaires sur toutes les importations américaines est une mesure exceptionnellement large qui ne cible pas un secteur, mais l'ensemble des produits américains. Pékin envoie ainsi un signal clair. Ce n'est pas une simple protestation, mais de vraies représailles. Dans le même temps, 16 entreprises américaines sont placées sous contrôle des exportations et 11 autres ajoutées à la liste noire des entités peu fiables. La Chine mobilise tous ses leviers juridiques avec des répercussions directes sur les chaînes d'approvisionnement high-tech et les secteurs liés à la défense. Autre signal fort, Pékin impose désormais des contrôles à l'exportation sur certaines terres rares stratégiques, comme le terbium ou le dysprosium, essentiels à l'électronique et aux industries militaires. La Chine a également déposé une plainte à l'OMC, se positionnant comme défenseur du multilatéralisme face à ce qu'elle qualifie d'intimidation unilatérale des États-Unis. Cette escalade pourrait marquer un tournant contre mesures américaines, durcissement chinois, impact croissant sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, voire une accélération du découplage économique entre les deux puissances. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Et à noter que ces représailles inquiètent les experts financiers. Ce vendredi, la bourse de New York a de nouveau ouvert en nette baisse.
Et puis on y reviendra donc dans quelques minutes dans Accent du Monde. Dans l'actualité du monde, l'armée israélienne qui a lancé une nouvelle offensive terrestre à Gazaville.
Bilan, au moins 30 personnes tuées. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis d'accentuer la pression sur le Hamas pour libérer les otages. Et à Rafah, deuxième ville de l'enclave, un ordre d'évacuation a été émis. L'armée d'Israël a annoncé mardi avoir commencé à morceler la bande de Gaza et saisir de larges zones de son territoire. Selon les Nations Unies, 2/3 de l'enclave sont actuellement interdites d'accès à la population. Oriane Verdier.
Ces deux dernières semaines, plus de 280 000 personnes ont été à nouveau déplacées de force à Gaza, alors que pratiquement toute la population a déjà dû quitter au moins une fois son foyer. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies publie une carte qui permet de se rendre compte de l'étau qui se resserre sur la population gazaoui. Une large bande de terre a été définie comme no-go zone tout le long de la frontière avec Israël et avec l'Égypte. Une zone entièrement interdite à la population coupe également l'enclave en deux, isolant entièrement Gazaville. La carte des Nations Unies localise également toutes les zones placées sous ordre d'évacuation immédiat. Au-delà des quartiers de Gazaville, la totalité de la grande ville de Rafah est aujourd'hui sous ordre d'évacuation. La carte indique également les postes frontières. Tous sont fermés. Seul un passage permet des évacuations médicales au compte-gouttes et le passage de travailleurs humanitaires et internationaux. Depuis un mois, Israël a à nouveau bloqué l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza.
Oriane Verdier du service international de RFI. Et d'autres frappes israéliennes ont été menées au Liban et en Syrie. Des frappes qui ont tué deux membres de la branche armée du Hamas dans le sud du Liban. Un cessez-le-feu est pourtant en vigueur dans le pays depuis 4 mois.
Par ailleurs, il y a ces accusations formulées par le chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure israélienne. Il écrit que Benjamin Netanyahou lui a demandé de faire pression sur les juges pour retarder son procès.
Un tissu de mensonges, rétorque l'intéressé. La procureure générale du pays a quant à elle conclu à un vice fondamental du Premier ministre dans le renvoi du chef du Shin Bet. Il mena des enquêtes criminelles sur les proches de Benjamin Netanyahou.
12 personnes tuées dans une nouvelle attaque de missiles russes en Ukraine.
Oui, c'est ce que viennent d'annoncer les autorités locales de Kriviri, dans le centre du pays. La nuit dernière, d'autres frappes ont visé la ville de Kharkiv. Les ministres français et britanniques des affaires étrangères ont accusé Moscou de saboter les efforts de paix de Washington, affirmant que l'armée russe visait toujours des sites énergétiques en Ukraine.
RFI Soir, 17h07 en temps universel. Manger mieux en prenant soin de nos ressources naturelles, c'est l'objectif affiché par l'État français qui vient de publier sa toute première snack.
SNAC comprenait stratégie nationale, alimentation, nutrition et climat. Le gouvernement fixe une série d'objectifs à atteindre d'ici 2030. Le texte est en consultation pendant un mois avant d'ultimes révisions et sa publication finale. Cette stratégie sera ensuite déclinée en plusieurs recommandations. Et c'est une occasion manquée selon les ONG. Jeanne Richard, les enjeux pour la santé, l'économie et la crise climatique sont pourtant immenses.
La France est le premier producteur agricole européen. Le secteur emploie 1 400 000 personnes. Il est essentiel pour l'économie du pays. Mais le document publié par le gouvernement pose un sombre constat. Nous produisons encore trop mal et nous mangeons trop mal, surtout au sein des classes défavorisées. La malbouffe et les pesticides qui contaminent la nourriture et l'eau entraînent cancer, diabète, obésité et maladies cardiaques. La pollution de l'environnement, la surexploitation des ressources ne sont pas viables à long terme et le système alimentaire représente 37% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et tout cela a un coût indirect pour l'État français, plus de 177 milliards d'euros chaque année selon l'ONU. Il est donc important de changer les pratiques. La stratégie alimentation, nutrition et climat fixe plusieurs objectifs. Diminuer l'obésité chez les enfants, augmenter la consommation de produits biologiques et sains ou réduire le gaspillage. Mais ces objectifs sont vagues et ils manquent d'ambition au regard des enjeux selon les ONG. Et les mesures sont seulement incitatives et donc sans réelle portée selon elles. Elles demandent à l'État de revoir sa copie.
Jeanne Richard du service environnement de RFI.
Et puisqu'on parle de la France, c'est le plan blanc qui est déclenché sur l'île de la Réunion pour faire face à l'épidémie de chikungunya.
Les semaines les plus délicates de l'épidémie se profilent avec un pic attendu à la mi-avril. Des opérations vont être déprogrammées pour désengorger les hôpitaux. Des soignants en congé pourront également être rappelés.
Et le pape François va résolument mieux.
Oui, il pourrait même apparaître publiquement ce dimanche. Le Vatican parle de nouvelles légères améliorations de son état de santé après une double pneumonie. Et c'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute de RFI tout de suite. Accent du Monde, avec vous Philippe Le Capi.
Absolument, Marco Retazzi, il est maintenant à l'écoute de Radio France Internationale, 19h10.